La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
On va parler d'école, mais pas des heures de colle. Pour que la grille horaire ne soit jamais un sujet secondaire. Que serait la philo sans Zophie? Que serait la démo sans Crassie? À moitié, ça fait l'engagement. Et le je mens, on en fait quoi, hein? Alors, on y va, s'il y a que le tir, ça fait cul, s'il y a que la diff, ça fait rance. Le savoir penser et la citoyenneté, on les veut pas qu'à moitié. Y'a rien à faire, parce qu'un demi ne fera jamais un entier. Et un demi, c'est court, même pour les cours, on prendrait bien un entier. Et ce, sans détour, le cours de philosophie et de citoyenneté, on le veut tout entier. Une heure, c'est que la moitié, deux heures, c'est l'entièreté. Dans le formulaire, tu recevras, à la philo, tu t'inscriras.
Cours de philosophie et de citoyenneté, deux heures, c'est mieux. Et oui, pourquoi séparer les élèves en fonction de la religion de leurs parents, catholiques, musulmans, orthodoxes, protestants, juifs ou même sans religion? Et s'il en est bouddhiste ou rastafari, à quoi doit-on s'inscrire? Pourquoi ne pas imaginer un espace où tous les élèves pourraient discuter ensemble des problèmes du monde, de l'actualité, des idées ou des religions pour mieux comprendre le point de vue des autres et apprendre à faire entendre le sien? Justement, c'est ce que propose le cours de philosophie et de citoyenneté.
Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Misa.
Au menu ce soir donc, le cours de philosophie et citoyenneté dans votre émission Libre Ensemble, un cours lancé dans le primaire voici deux ans et dans l'enseignement secondaire officiel à la rentrée dernière. Alors pour l'année scolaire prochaine, soit 2018 et 2019, c'est vous, parents, adolescents, qui devrez faire un choix. Si vous optez directement pour deux heures de philosophie et citoyenneté, ou soit vous optez pour une heure de philo et citoyenneté, une heure de religion ou de morale non confessionnelle. Pour poser ce choix, eh bien on va en parler ce soir avec nos invités, que j'ai le grand plaisir de recevoir. Flore Lecollier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de CPC.
Tout à fait.
À l'école communale du centre de Rixensart.
Oui.
À vos côtés, il y a Cyril. Salut Cyril.
Bonjour.
Cyril est élève en CPC 2h, en 5e primaire, dans l'école de Madame Flore. C'est bien ça, Cyril. Jean Leclerc, bonsoir Jean.
Bonsoir.
Professeur de philosophie à l'UCL. Et Luc Pirson, bonsoir Luc.
Bonsoir.
Président de la FAPEO, Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Alors, on va peut-être commencer aujourd'hui avec vous, Luc Pirson. Ce cours qui rassemble tous les élèves, qui ne les sépare plus en fonction de leurs convictions religieuses, c'est une victoire pour la laïcité, c'est certain. Mais pourquoi un tel combat? Est-ce réellement important?
C'est le résultat effectivement d'un combat de plusieurs années du côté de la FAPEO certainement, du côté d'associations laïques de façon générale, d'essayer d'avoir enfin un cours rassembleur, on l'a dit, un cours qui rassemble tous les enfants dans la même classe et qui permet de partager avec tous ces enfants diverses choses sur la citoyenneté, sur le citoyen, sur l'approche de soi, l'approche des autres, sur certainement la différence, la reconnaissance des différences, les admettre et donc contribuer à un vrai vivre ensemble, mais qui cette fois-ci n'est plus expliqué de façon isolée selon les confessions des parents, où les enfants se retrouvaient donc isolés dans des classes, mais ici c'est partagé, ils ont la même information, ils peuvent en discuter ensemble.
Alors donc on l'a dit, depuis deux ans ces cours se donnent en primaire et puis depuis une année, donc là on termine la première année dans le secondaire. Il y a une grande campagne lancée par le Centre d'Action Laïque et la FAPEO qui justement préconise deux heures plutôt qu'une. Pourquoi est-ce plus important deux heures plutôt qu'une? Parce qu'on peut encore faire le choix aujourd'hui, mais pourquoi est-ce important de choisir plutôt deux heures?
Au niveau pédagogique les enseignants en témoigneront, j'espère. Au niveau pédagogique, il paraît évident que en une heure, en 50 minutes de pratique, il est très difficile d'enseigner et de faire avancer les choses avec les enfants devant soi. Donc deux heures, c'est forcément mieux. Deux heures de quoi? De quelque chose qui est donc rassembleur, qui enrichit les enfants. Et donc une heure, c'est un petit peu peu. Cette deuxième heure reste une possibilité aujourd'hui. On ne va pas revenir sur la situation de pourquoi elle est encore optionnelle. On peut critiquer la chose. Notre campagne consiste encore une fois, et on se trouve, nous, du côté des parents, obligés d'informer encore une fois parce qu'on trouve que ce choix possible est mal expliqué, mal documenté, mal renseigné aux parents sur un, l'intérêt du cours et le pourquoi aussi cette chose est apparue. La FAPEO informe par manque d'informations venant du formulaire lui-même. Donc ce fameux formulaire est en train d'être distribué. Pour rappel, les parents auront jusqu'à la fin du mois de mai. Le formulaire doit être rempli pour le 1er juin. Ne pas se précipiter non plus pour y répondre.
En tout cas, bien se renseigner.
À tout parent à s'informer. Nous avons cette campagne qui est suivie par un site internet.
Rappelez-le.
Qui s'appelle 2 heures c'est mieux.
Facile. 2heurescmeux.be. Voilà.
Et en toutes lettres. Hein,
Et tout rattaché.
Nous avons cette campagne qui se diffuse aussi via les médias, les réseaux sociaux, Facebook, la page Facebook FAPEO et autres. Et donc, on y explique le contenu du cours, l'intérêt du cours. On y explique la vision pour les enfants, pour les élèves. On y explique l'intérêt pour les parents.
Rapidement, comment a été reçu ce cours en secondaire, puisque là, on peut faire le bilan d'une année scolaire. Comment a-t-il été reçu par les parents, puisque vous êtes sur les terrains, et par les élèves?
C'est la continuité de la perception qu'on avait déjà après l'expérience du primaire l'année passée. Donc là où le cours a été choisi, c'est clair que les échos sont toujours très très positifs. Enfin un cours qui rassemble. Et je dirais la différence par rapport au cours qui préexistait, que ce soit de religion ou même de morale, l'intérêt se trouve marqué également. Donc le témoignage de l'intérêt de ce cours en commun nous revient évidemment. Et l'actualité, malheureusement, depuis 2015, depuis cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a permis d'enfin avancer dans ce cours, malheureusement, l'actualité n'a fait que confirmer l'intérêt du cours. Donc cette actualité dramatique en France, en Belgique, de par le monde, d'actes terroristes, pour être clair, d'actes terroristes commis par des incompréhensions et qui créent des amalgames entre extrémisme et pratique d'une croyance quelle qu'elle soit. Un tel cours de philosophie et de citoyenneté permet à tous les enfants d'être confrontés, d'apprendre les différences, d'être confrontés aux différences et les accepter là où elles doivent être.
Alors, Flore Lecollier, justement, pourquoi avoir changé d'orientation? On le rappelle, donc vous avez un parcours un peu particulier. Vous étiez institutrice, donc généraliste, on peut dire ça comme ça. Et puis alors, vous vous êtes spécialisée dans les cours de philosophie et citoyenneté. Pourquoi avoir fait ce choix-là?
Eh bien, comme l'a dit Luc Pierson, en fait, moi, c'est vraiment suite aux attentats qui a eu lieu à Bruxelles que ça m'a fait un choc. Je me suis dit, voilà, en tant que prof, en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose aux élèves et qu'est-ce que je peux faire pour essayer que ça n'arrive plus? Et donc, suite à ça, je me suis dit, ben voilà, moi, je pense que le cours de philosophie et de citoyenneté permettra vraiment à tous les enfants de pouvoir réfléchir, à se poser des questions, à remettre en question certaines choses que peut-être on leur dit d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la famille ou à l'extérieur, et que donc là il y a quelque chose à faire avec les enfants. Alors évidemment, moi, à mon petit niveau de primaire, ben, je me suis dit voilà, je vais me lancer là-dedans. Et donc j'ai fait pas mal de formations en philo. Je suis en train de terminer le certificat en philosophie et en citoyenneté pour justement être vraiment prête et pouvoir donner cours à mes élèves.
Un certificat qui a été créé de toutes pièces pour pouvoir donner ces cours-là?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tous les professeurs de philosophie et de citoyenneté, pour pouvoir être nommés dans la nouvelle fonction, devront passer ce certificat. Et voilà. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on rencontre évidemment des personnes qui viennent de milieux tout à fait différents. On discute beaucoup. Les formateurs sont vraiment très intéressants. Et voilà. Et donc.
Depuis 2 ans que vous donnez ce cours ou
Non, c'est ma première année.
Première année. Alors, ouais. Quel est le bilan après cette première année? Comment on accroche les enfants? Quel est le retour?
Eh bien, en tout cas, ils ont l'air très heureux. On va peut-être demander à Cyril
aussi. On va demander à Cyril juste après. Mais justement, tu me diras si Madame Flore dit la vérité ou pas.
En tout cas, je pense qu'on a, on a fait pas mal de choses, en tout cas, au sein de l'école. On a mis pas mal de choses en place avec le cours donc, de l'heure commune et de la deuxième heure. Notamment, enfin, Cyril l'expliquera mais plus en détail, mais on a mis en place un conseil d'école. Donc vraiment pour partir des enfants, pour essayer de construire une citoyenneté à leur niveau au sein de l'école, utiliser l'école comme une mini-société. Et donc il y a des décisions qui se prennent au conseil d'école et voilà. Et alors les enfants apprennent chaque fois, donc c'est tous les mois, ils apprennent à représenter leur classe au conseil d'école. C'est chaque fois un enfant différent. Et alors, suite à ça, on a pris des décisions au niveau des règles de l'école, au niveau de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité pour mieux vivre ensemble. Et je pense que Cyril va peut-être nous expliquer les différentes choses qu'on a pu mettre en place.
Vous avez pris Cyril avec vous parce qu'évidemment, Cyril n'aime pas du tout le cours de CPC. N'est-ce pas, Cyril ? C'était le plus mauvais élève. Non, pas du tout. Dis-moi, Cyril, qu'est-ce que tu aimes dans ce cours-là ? Tu l'as découvert, donc tu es en cinquième. Donc, c'est la première année que tu suis ce cours-là ?
Oui.
2 heures par semaine. Oui. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans ce cours-là ?
Ben, on apprend plein de choses.
C'est-à-dire ?
Détaille-moi un peu. De vivre ensemble, on a... Après, c'est quoi une question philo ?
Mais encore.
C'est quoi un bon citoyen ?
C'est quoi un bon citoyen ?
On a eu un spectacle sur le respect. Et de ça, il y avait une charte du ruban vert. Et on fait... toutes les 2 semaines, il y a une des 10 phrases qu'on met dans l'école, et celui de la classe, de chaque classe de primaire, qui a le mieux respecté, reçoit un ruban vert pendant les 2 semaines suivantes.
Donc en fait, le cours de citoyenneté et de philosophie s'étend un peu sur toute la vie de l'école, toute la semaine, pas uniquement ces 2 heures-là en fait.
Oui.
Et c'est ça qui te plaît aussi ?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a étonné le plus dans ce cours-là cette année ? Une thématique particulière ou un échange particulier ?
Koh-Lanta, oui.
C'est-à-dire, Koh-Lanta, raconte-nous.
Il y avait les profs qui faisaient... Enfin, il y avait des épreuves à faire. Mmh. Et fallait arriver... C'était à des groupes de la première primaire à la sixième primaire. Mais les enfants tous mélangés. Et il y avait des épreuves à faire. Fallait arriver ensemble.
On devait coopérer aussi.
Coopérer.
Pour arriver à réussir
l'épreuve. Et à la fin, il y avait un jour, un lundi, où alors on a su quelle équipe avait eu le plus de cachets.
De récompenses.
Oui. Mmh.
Et est-ce que les copains adhèrent à ce cours-là aussi ? Ils sont comme toi, ils les aiment beaucoup ? Vous amusez bien ?
Oui, on s'amuse bien, oui.
Flore, on reviendra à toi, Cyril. Flore, comment on perçu ce changement, en tout cas, et ces cours-là comment les collègues ont réagi à ce changement, à votre changement de cap, mais ouais, aussi à l'instauration de toute une nouvelle philosophie dans l'école, finalement. Ouais, oui. C'est quand même du changement.
Oui, oui. En fait, je pense que ce cours a apporté vraiment un bol d'air frais au sein de l'école, parce que j'utilise ce cours, en fait, pour vraiment amener la citoyenneté au sein de l'école. On a décidé cette année-ci de faire d'un des grands projets de notre école, c'était justement le mieux vivre ensemble. Et donc j'ai utilisé le cours de citoyenneté pour essayer justement de mettre ce projet en route. Et donc grâce au conseil d'école, grâce aux différentes activités qui ont été décidées au conseil d'école, donc notamment, comme Cyril a dit, le concours du ruban vert ou Koh-Lanta ou d'autres choses qu'on a mis en place, on a fait aussi tout un projet sur le tri des déchets. Et sur les enfants, enfin, on aimerait bien que les enfants deviennent des enfants zéro déchet et motiver leur famille à devenir famille zéro déchet. Tout ça, ça s'est discuté au cours de CPC et on a pu vraiment mettre plein de choses en place au sein de l'école. Et c'est vrai que, en tout cas, mes collègues me disent « Ah oui, mais c'est vraiment un vrai bol d'air frais qui arrive comme ça grâce à ce cours, parce que tu peux avoir le temps de le faire dans les 2 heures. » Malheureusement, je n'ai pas tous les enfants dans les 2 heures. Et ce qui est problématique, c'est que, bon, il y a quand même 100...
C'est une difficulté.
Oui, c'est une difficulté. C'est que j'ai quand même 150... Il y a quand même 157 compétences à développer sur les 8 années, puisqu'on compte les 2 années du secondaire en plus. Et donc, la majorité des enfants, je les ai qu'une heure semaine. Et donc, c'est là, là est ma difficulté. C'est que pour pouvoir mettre tous ces projets en place, eh bien, j'aimerais bien avoir les...
plus de temps.
Voilà,
le
plus
temps
de
relancer
temps.
Chaque semaine la machine, voilà. Rien qu'avec une heure, c'est un peu
voilà,
compliqué.
Voilà, c'est vraiment très court. Mmh. Et donc, j'ai des enfants en deuxième heure de citoyenneté, avec lesquels je peux évidemment aller beaucoup plus loin et avoir le temps d'avoir toutes les compétences... qui sont demandés dans le programme. J'avoue franchement qu'avec les enfants qui n'ont qu'une heure, c'est vraiment assez... c'est beaucoup plus compliqué. Quoi.
Faire de la voilà. philo avec les enfants, Jean Leclerc, je me tourne vers vous, parce que vous êtes le professeur, vous, des grands. Vous êtes professeur de philosophie à l'UCL, mais on commence... est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est important de commencer avec les plus petits, avec Cyril, qui est en cinquième primaire? Est-ce que ça forge vraiment un être humain? Qu'est-ce que c'est la philo?
Mais c'est très fondamental, parce que je pense d'abord qu'il est heureux d'entendre et de donner la voix à des personnes, des enseignants, des étudiants, des élèves, où ça se passe bien. Mmh. Alors, on les entend trop peu. Et ici, le dialogue absolument passionnant qu'on est en train d'écouter entre Flore et Cyril est vraiment riche pour nous expliquer, en fait, ce que doit être cette formation de philosophie et de citoyenneté. Et alors, un point de détail, un bol d'air frais, je crois que c'est vrai. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais cette petite question que vous avez posée, est-ce que madame dit ou pas la vérité ? Ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit comment la question de la vérité, qui est une question éminemment philosophique, s'instaure dans la relation entre l'enseignant et l'élève, et que l'idée d'un savoir qui pourrait être l'objet d'une domination est lui-même interrogé à l'intérieur et remis en question à l'intérieur
avant,
d'une
évidemment.
Pratique philosophique et d'une pratique citoyenne. Donc ça, ce serait une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que on le voit bien, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut aller vers les deux heures de citoyenneté, parce que les référentiels ont été bien faits. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont à voir dans ce programme, et on pourrait encore peut-être implémenter. Mais il y a une ligne de fond, il y a une ligne de trame qui est passionnante et qui, à mon sens, mérite deux heures. Et en ce sens-là aussi, le fait que Cyril soit dans cette émission est très important, parce que quand on nous dit oui, mais le cours de religion à l'école, bon, alors on se fonde toujours, et je fais un petit brin de théorie ou de réflexion comme Luc vient de le faire, on dit toujours oui, mais l'article 24 de la Constitution, l'éducation religieuse. Bon, d'abord, tout le monde sait très bien ici qu'une éducation religieuse, rien ne nous dit qu'elle doit être faite ou organisée. Exactement, en ce sens-là, comme on l'a fait jusqu'à présent. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, on oublie qu'il y a l'article 22 bis de la Constitution. Je me permets quand même de relire ce petit paragraphe, parce que vous allez voir que Cyril est au cœur du dispositif. Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Et ça, c'est très important. Et on doit toujours se rappeler à cet égard que quand le Conseil d'État demande à la ministre Milquet de l'époque de revoir son projet et exige un référentiel commun pour des questions de continuité entre les réseaux. Alors on sait que ça n'a pas été pris au sérieux par l'enseignement libre catholique, mais ça c'est une autre histoire. Mais on sait que donc le projet est retoqué au nom de la supériorité de l'enfant. Ça veut dire que le législateur a dû prendre la mesure que ce cours était tellement important pour l'éducation de l'enfant qu'il fallait qu'il soit dans tous les réseaux. Et donc, la situation qu'on voit ici avec Cyril et évidemment avec Flore, qui donne ce cours, nous montre que l'on doit aller dans ce sens-là, parce qu'on doit faire à la fois, bien sûr, de la philosophie, mais il y a aussi le philosopher. Et en ce sens-là, tout ce qui est fait à l'intérieur des activités qui viennent de nous être expliquées, par exemple, j'ai noté la représentation. C'est très important de savoir qui on représente, comment on représente. On peut faire un petit cours sur l'histoire de la démocratie quand on parle de la représentation, sur les différentes formes de représentation. Quand on parle d'une charte, ben une charte, ça s'écrit. Comment est-ce qu'on écrit une charte? Est-ce qu'il y a des droits supérieurs dans une charte? Bon, ou encore la question d'un conseil d'école. Mais ça veut donc dire que même à travers le cours de philosophie et de citoyenneté, il y a une mutation considérable de la façon de voir l'école, et donc d'engager l'école dans une vision, Moi, je préfère une école qui a un pacte de solidarité, solidarité éducative, où il y a donc de la coéducation, où évidemment, avec un cours comme celui-là, eh bien, on va avoir des outils. Et alors, peut-être un tout petit dernier mot sur l'importance de la philosophie, parce que on ne doit pas oublier que c'est un cours de philosophie et de citoyenneté.
C'est ça, j'allais vous dire. C'est intrinsèquement lié. Les
alors,
deux sont
c'est
liés.
C'est intrinsèquement lié. Ceci étant que la philosophie, c'est bien la discipline. Et par exemple, c'est très intéressant de voir qu'il met au cœur de son premier feedback, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce que c'est qu'une question ? Bon, voilà, je pense que la philosophie, elle commence avec le questionnement. Donc la philosophie, c'est une discipline à part entière. Et ici, bien sûr, on prend un objet qui est la citoyenneté. Et on va faire donc une philosophie de la citoyenneté avec la citoyenneté. Et alors, en ce sens-là, c'est évidemment très important parce qu'on a, d'une part, une lignée directrice, et puis d'autre part, on a un objet où on va apprendre à être un citoyen. Mais on sait bien que ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui va se faire à travers une histoire, à travers des pratiques,
pas à pas,
avec des gestes. Et donc, à cet égard-là, l'école joue vraiment un rôle qui me semble être extrêmement important. C'est pour ça que je plaide avec tous les gens qui sont ici autour de la table, et aussi les praticiens qui nous disent que dans les écoles et dans le cours, il y a vraiment des mutations considérables qui apparaissent.
Philosopher à l'âge de 10 ans, par exemple, si on prend l'exemple de Cyril qui est là, on lui demandera d'ailleurs après, c'est tout à fait révolutionnaire. Dans les autres générations, lors de ma génération, on n'a jamais appris ou demandé de philosopher.
Je devais
écouter.
Il fallait écouter, on était dans des savoir de domination. On sait que la philosophie a toujours eu quelques difficultés avec la question de l'enfance, parce que ça pose des problèmes aussi philosophiques. Celui qui ne parle pas.
Et puis,
voilà. Mais on sait si évidemment que tout individu est capable de philosopher et que donc, dès l'accès au langage, et peut-être même avant, si la philosophie a aussi quelque chose à voir avec les affects et avec les émotions, il y a quelque chose de l'ordre de la philosophie dans la vie de l'enfant. Et donc, Cyril est jeune, mais on pourrait dire philosopher à 10 ans, c'est déjà un peu vieux pour philosopher. Et on peut même encore commencer plus tôt. Et je pense que donc, on peut commencer à philosopher dès l'école maternelle, dès la première année primaire. On peut faire des communautés de recherche, de questionnement. Et puis, on sait aussi très bien que les plus grandes questions philosophiques, les plus belles d'ailleurs, les plus hautes, presque, on va dire les questions métaphysiques, c'est eux qui les posent, ce sont les enfants.
Donc, la philo et la citoyenneté, ce n'est plus l'affaire que d'une élite.
Ah non, je crois que c'est ça vraiment la mutation considérable, et c'était très beau aussi ce que Flore nous disait en évoquant la question de sa propre formation, c'est-à-dire que je pense même que l'arrivée de tout ce corps enseignant qui vient suivre le certificat, et vous savez que je plaide aussi pour la création d'un master spécifique pour qu'on ait vraiment une formation rigoureuse de nos maîtres, que l'on donne une base solide, voilà, que l'on prenne ça très au sérieux. C'est extrêmement intéressant de voir comment il y a une interaction qui se joue entre les différents niveaux de l'enseignement, et qui fait aussi, parce que ça je crois que c'est très important, c'est pour ça que la philosophie joue un rôle considérable, qu'il y a de la neutralité. Voilà. Parce qu'on est sorti d'un modèle au fond où on n'apprend plus une prière à l'école, on ne lit plus des textes religieux. On est vraiment au cœur de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on fait de l'enfant un citoyen avec ses droits politiques, civils. Et donc on crée véritablement avec ce cours le lien social. Et à cet égard-là, la philosophie est une bonne méthodologie parce qu'elle est neutre par définition. Elle n'est pas convictionnelle, elle n'est pas confessionnelle.
Elle
est neutre. Elle n'impose pas. Elle est elle-même. Voilà, elle est elle-même.
Le père sans vouloir réagir.
C'est pour ça que j'aime bien Jean Leclerc l'a résumé à un moment donné, cette appellation qui résume le cours de philosophie et citoyenneté en cours de philosophie de la citoyenneté. Il y a parfois confusion, amalgame chez certaines personnes qui croient savoir de quoi on parle dans ce cours et qui le résument en parlant ce nouveau cours de citoyenneté. Et dans les explications, témoignages qu'on vient d'entendre, il est clair que ce n'est certainement pas un cours qui formate un enfant pour être un futur citoyen. Ce n'est certainement pas un cours qui vise à noyer dans le même moule, dans une certaine neutralité, tous les enfants, tous les futurs citoyens. Certainement pas. C'est bien un cours qui construit en armant, comme l'a dit Flore Lecollier, en armant par l'éducation par l'enseignement de différentes choses et donc par la philosophie en armant le citoyen. Mais ce n'est pas en les formatant tous pareillement. Certainement pas, c'est le contraire.
Flore Le Collier, aussi une réaction.
Oui, tout à l'heure, Jean Leclerc a dit qu'on pouvait philosopher déjà avec les tout-petits. Et moi, je voudrais quand même apporter un petit témoignage par rapport aux cours que je donne en première et deuxième primaire. Je leur ai demandé justement, tiens, c'est quoi penser à leur âge, à 6 ans, qu'est-ce que c'est penser? Et il y a des enfants qui m'ont dit, notamment une petite fille qui m'a dit, mais madame, c'est facile de penser. Penser, on pense avec son ventre, on pense avec son cœur et on pense avec son cerveau. Et ça, je trouvais ça tellement magnifique pour une petite de 6 ans de dire qu'en fait, elle a tout compris. C'est avec les émotions, c'est avec la connaissance qu'on peut philosopher.
Et puis, c'est magnifique qu'elle puisse le dire. Voilà. Parce que, voilà, il y a certaines écoles qui ne permettent pas le dialogue. Cyril, je voulais te demander, est-ce que tu t'imaginais, toi, un jour, que tu allais philosopher? Si on t'avait dit ça il y a quelques mois, il y a un an, deux ans, tu serais dit, mais non. Ou bien, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement?
Non, c'est venu naturellement.
Tu es fière de pouvoir philosopher aujourd'hui?
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu ramènes un peu ça à la maison aussi? Qu'est-ce que tu dis à tes parents?
Ce que je fais.
Et comment eux le prennent?
Bien.
Oui. L'année prochaine, encore 2 heures?
Oui.
Est-ce qu'il y a des examens?
Non.
Petit contrôle, là, non? Non. C'est les projets qui sont mis en avant?
Oui, et puis, effectivement, il y a une partie bulletin, parce qu'il y a quand même une réponse à mettre dans le bulletin par rapport au cours de citoyenneté, mais la partie bulletin qu'on utilise en CPC, dans notre école, est vraiment une auto-évaluation. Ils s'auto-évaluent sur leurs apprentissages.
Tu sais que c'est important aussi.
Voilà.
Et, il y a plus que des points dans un bulletin.
Bien sûr. Voilà.
Cette émission se termine là déjà. On en reparlera évidemment à la rentrée. On recevra peut-être encore Cyril. Tiens, tu viendras nous expliquer pour ta prochaine année de CPC. Tu reviendras?
Oui.
Allez, super. On t'accueille avec plaisir. Merci Jean Leclerc. Merci Luc Pirson. Merci Cyril. Et merci Flore Le Collier. Un site internet vite.
2 heures c'est mieux.
2 heures c'est mieux.be pour tous les parents qui désirent en savoir plus et les ados aussi. Bonsoir Sandra Evra, rédactrice en chef du magazine Espace de Liberté. Vous êtes là pour nous parler du numéro de ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans ce numéro, Sandra?
Oui, bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors pour ce mois de mai, à l'approche de l'été, nous avons décidé d'aborder la question sensible de l'environnement, une problématique que nous déclinons sous le prisme des droits fondamentaux, car le fait de ne pas assez tenir compte de l'environnement, et notamment du réchauffement climatique et de la pollution, a des répercussions concrètes sur une série de droits.
Et bien sûr, vous avez des exemples pour nous, Sandra.
Oui, il y en a même plusieurs. La qualité de l'air que nous respirons, par exemple. Bruxelles a d'ailleurs été épinglée dernièrement pour sa mauvaise qualité de l'air, ce qui a un impact sur notre santé. La pollution est à l'origine de 10 000 décès par an. Autre exemple, le réchauffement climatique, c'est un accélérateur de problèmes. Dans différentes zones de la planète, cela provoque des sécheresses avec une répercussion directe sur l'accès à la terre et à une alimentation saine. Lorsque les terres ne sont plus cultivables, les populations migrent pour survivre. Nous sommes confrontés à la hausse du niveau des mers également. Cela signifie des inondations, des zones devenant inhabitables, des migrations de populations, et c'est déjà le cas dans des zones sensibles de l'Afrique de l'Ouest et à Haïti. Mais la Belgique risque aussi d'être concernée d'ici la fin du siècle, et tout cela est bien expliqué par le climatologue Jean-Pascal Van Ypersel dans notre dossier.
Mais vous avez également eu la chance, je pense, de rencontrer John Schenck pour ce numéro.
Oui, en effet, le réalisateur du documentaire Une suite qui dérange nous a accordé une interview. Il s'agit donc de la suite du film Une vérité qui dérange avec Al Gore, qui avait fait beaucoup de remous voici quelques années. Avec ce deuxième documentaire, John Schenck essaye de nous secouer une nouvelle fois pour que nous passions au temps de l'action. Parce qu'il est vraiment temps d'agir, puisqu'il n'y a pas de plan B pour notre planète.
Mais dis donc. De bonnes lectures pour le mois de mai, un magazine Espace de Liberté à se procurer sur notre site internet www.laïcite.be. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt et belle soirée.
En quête de sens
sur la première.